Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est psychanalyste et pédopsychiatre.
Bonjour Jacques Léna.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter et merci de venir répondre aux nombreuses questions qui surgissent ce matin après l'attaque qui s'est produite hier à Annecy. Nous allons commencer par dialoguer avec Émilie. Elle a 38 ans, elle a deux petites filles de 4 et 6 ans. Elle vit à Annecy et ses petites filles ont l'habitude de venir jouer dans le parc où s'est produit l'horreur hier. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Je vous entends, oui.
Comment ça va à la maison ? Comment elles vont les petites ce matin ?
Écoutez, ça va. Je pense qu'au vu de leur âge, elles n'ont pas encore tout à fait réalisé ce qui s'est passé, ce qui est pas plus mal, au vu de la violence qui s'est passée hier. Mais ça va.
Ça va. Alors, elles ont l'habitude de venir jouer dans ce parc. Elles l'appellent le parc aux pirates. Elles ont leurs copines. Elles ont leurs jeux. Comment s'est déroulée la journée d'hier pour elles ?
Avec pas mal d'interrogations, puisque la préfecture avait demandé aux écoles de confiner les enfants entre 11h30 et 13h30, ce qui fait qu'il n'y avait pas de sortie possible à l'heure du repas. Et elles se sont forcément interrogées du fait que tous leurs copains de classe aient mangé avec elles à la cantine.
D'accord, évidemment. Et ensuite, comment est-ce que l'institutrice s'est adressée à elles ? Comment vous leur avez parlé, Émilie ? Est-ce que vous avez su trouver les mots ? Comment vous avez fait ?
Alors, l'école a pris le parti de ne pas en parler aux enfants.
D'accord.
Et nous a laissé, nous a fait un mail en nous donnant le libre choix d'en discuter ou pas avec elle. Après, évidemment, en allumant les infos le soir, elles ont reconnu les images de la ville. Nous n'avons évidemment pas montré les images choquantes, mais elles ont bien vu les témoignages qui se déroulaient dans des lieux qu'elles connaissaient.
Donc elles ont compris.
Elles ont reconnu le parc, évidemment. Donc, elles nous ont posé des questions et on leur a expliqué qu'un méchant monsieur était venu au parc et qu'il avait voulu faire du mal à des enfants.
Voilà. Et vous vous êtes sentie comment face à des toutes petites ? On a Jacques Léna face à nous qui est pédopsychiatre et qui est psychanalyste et qui va essayer de nous donner une boîte à outils s'il en existe une.
Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails. Je me sentais pas armée en fait pour en discuter plus largement avec elle. Je leur ai juste expliqué qu'un méchant monsieur avait voulu faire du mal à des enfants. Ouais. Je n'en ai pas dit plus et du coup, je les ai juste alertés sur le fait qu'il faut toujours être vigilante et bien écouter ses parents et rester proche d'eux.
Et elles sont à l'école aujourd'hui les petites ?
Parce qu'il va y avoir... Elles sont à l'école. Oui.
Voilà, c'est ça. Je pense que ce soir, il va y avoir aussi des questions qui surgissent de tout ce qui se sera dit dans la cour de récré. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir pris au téléphone. Merci et bonne journée.
Merci également. Merci.
Jacques Léna, vous avez une longue carrière derrière vous d'accompagnement des enfants et des adolescents. Comment... En premier lieu, peut-on s'adresser à des tout-petits ? Là, on parle d'enfants qui ont été sauvagement attaqués, qui ont entre 22 et 36 mois. Et on parle d'enfants qui vont au parc, donc d'enfants qui sont forcément en maternelle et en primaire.
D'abord, bonjour Émilie. Votre témoignage est très pertinent, je trouve. Comment s'adresser à eux, comme vous venez de le faire ? Je pense, en premier lieu... en leur parlant et en écoutant ce qu'ils ont à nous dire. C'est important de leur parler, éventuellement de commenter ces événements, mais la première des choses, c'est d'écouter les questions qu'ils peuvent avoir envie de nous poser à ce sujet-là. Alors, en amont de leurs questions, il y a leur information. Leur information, idéalement, comme l'a fait Émilie, de pouvoir... être les premiers à informer les enfants, ça me paraît plutôt mieux que ce soit l'écho des réseaux sociaux ou de la radio, de la télé ou des copains, etc. C'est les parents qui en parlent quand ils le peuvent, quand les circonstances s'y prêtent. Bon, il ne s'agit pas, je pense, de fournir des explications dans un premier temps. Il s'agit d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé, et Émilie l'a dit très justement, il faut pas chercher à en rajouter, à donner plus d'informations que ce que les enfants demandent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a une personne qui a été violente, qui était certainement très très mal avec lui-même, donc mal avec les autres, et qui a passé sa colère, comme on dit, sur des enfants qui étaient là. Pourquoi? Comment? L'avenir le dira quand on connaîtra mieux ce monsieur.
Quand un enfant ne pose pas de questions sur les détails, on ne lui en rajoute pas. C'est-à-dire qu'on se contente de répondre à ses questions.
En effet, en effet. Alors, le problème est un peu compliqué par le fait que c'est pas un événement comme il s'en passe dans les familles ou dans une cour de récréation qui n'a pas un écho phénoménal comme ce qui nous occupe ce matin.
Le problème là, ça va être de gérer l'écho
exceptionnel pour la chose. Hein. Donc, les enfants vont être assaillis de toutes sortes d'informations, de toutes sortes de réflexions et de toutes sortes d'interprétations. Hein. C'est un méchant, c'est un terroriste, c'est un fou,
c'est un immigré,
c'est un malade, c'est un ceci, c'est un cela, etc. Et chacun, selon ses convictions, selon ses propres idées, va mettre l'accent sur tel ou tel aspect.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un méchant pour un enfant? Parce que Émilie nous dit, et moi j'aurais dit ça spontanément à mes enfants aussi, j'aurais dit c'est un méchant.
Vous avez de la chance, vous n'avez jamais rencontré de méchant dans votre vie?
Si.
Ça existe, les méchants, si. Et on en a tous une idée assez précise.
Mais pas un méchant comme ça. Ça, c'est un méchant hors norme.
Qui est fondé sur nos expériences, les craintes que l'on a eues enfant, quand on a croisé ou quand on a été pris dans des situations de violence, pas nécessairement aussi graves que celles-là, mais tous les enfants ont une expérience de la méchanceté et de la violence. Par conséquent, expliquer ce que c'est qu'un méchant, je suis pas sûr que ça appelle beaucoup de choses. Celui-là, c'est un particulièrement méchant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'un enfant sait ce que c'est que la méchanceté, sait ce que c'est que la violence, et qu'on n'a pas besoin de sortir un personnage comme celui qui a attaqué des petits hier à Annecy, on n'a pas besoin de le sortir de la catégorie méchant, d'en faire une catégorie à part, une catégorie exceptionnelle.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que la violence, plus que la méchanceté d'ailleurs, la violence c'est quelque chose qui est partagé par tous les êtres humains. Nous sommes tous capables de violence, bien heureusement censurés par notre constitution psychique qui nous épargne d'avoir à passer à l'acte. Mais la violence, elle est universelle et elle est humaine. Par conséquent, ce sont pas des extraterrestres, des personnes qui commettent des actes comme cela. Hein. Ce sont des gens qui sont débordés à un moment donné par cette violence qui existe dans l'être humain et qu'il ne contrôle pas et qui éventuellement s'adresse à des beaucoup plus faibles qu'eux, comme ça a été le cas là.
Alors comment on peut rassurer un enfant si on lui dit que autour de nous, c'est-à-dire autour de nous, les hommes, les femmes qui nous entourent, eh ben, il est susceptible de se trouver un personnage, un méchant, qui soit plus méchant que les autres et qui passe à l'acte. Comment trouver des mots rassurants? Comment faire qu'on explique une horreur extrême et qu'en même temps, on essaye de dire à un enfant « tu es en sécurité ».
Alors, je pense que ce qui rassure un enfant, c'est moins les explications qu'on peut lui donner que notre capacité à formuler et à mettre cela en mots. C'est-à-dire que la violence de cet homme est, pour nous, en l'état actuel de ce que l'on sait, absolument inexplicable, que l'esprit humain déteste l'inexplicable et que, par conséquent, l'esprit humain se précipite chez chacun de nous sur des explications. Encore une fois, tel va le trouver fou, tel va le trouver terroriste, tel va le trouver étranger, tel va le trouver ceci,
mais on peut dire à des enfants, ça ne s'explique pas, une violence comme ça. On peut dire à un enfant, je ne suis pas tout puissant, je n'ai pas d'explication.
Si, alors, je crois qu'on peut lui dire que ça connaît des explications, simplement. C'est toujours le problème des explications en face de choses qui sont de nature délictueuse. L'explication risque bien souvent d'apparaître comme un effort de disqualification ou d'excuse pour la personne. C'est pas parce que je comprends quelqu'un que j'excuse. C'est une sorte de procès qui est bien souvent fait à toutes les démarches psychologiques en face d'événements délictueux comme ça. Où on va dire tel ou tel qui a des comportements incroyables, il est fou. Bon, et donc on le disqualifie, et en même temps, en disant il est fou, dans notre imaginaire, dans notre connaissance aussi, ça renvoie à l'exemption de sanctions pénales. Quand quelqu'un est fou, il est pas sanctionné,
il est
considéré comme pas responsable.
Ouais.
Ce qui est peut-être le cas de cet homme, j'en sais rien. Mais donc, avec les explications, il faut être très prudent. Je pense qu'il faut dire à l'enfant, d'abord, que l'homme a commis quelque chose qui est interdit. Et qu'à ce titre, il a été pourchassé, il a été arrêté, et qu'il est maintenant en prison, et qu'il n'est pas prêt d'en sortir, et qu'il ne pourra pas recommencer. Ça, c'est très important pour les enfants, qu'ils sachent que la personne a été immédiatement arrêtée, et un début de sanction, sans préjuger de tout ce qui va lui arriver après. Bon. La seconde chose, c'est que l'enfant doit être en mesure de comprendre qu'on peut parler de ça. Parce que les enfants, en face de la violence, sont mal à l'aise, bien entendu, et ne savent pas toujours en parler. Il faut savoir que la violence à laquelle les enfants sont le plus confrontés dans un pays comme la France, qui est un pays en paix, qui n'a pas de...
Ce sont des violences à l'intérieur de la famille.
Voilà. Ce sont des violences familiales, intrafamiliales, dont il est toujours assez difficile, même si les lois évoluent, même si aujourd'hui les sanctions physiques sont interdites par la loi, etc. Il n'en reste pas moins que ça reste quelque chose dont il est très difficile de parler.
Donc violence égale silence.
Et donc violence égale silence. Que ce soit les violences du harcèlement scolaire ou les violences intrafamiliales. On n'en parle pas et on s'accorde à dire oublie ça ou tu n'y penses pas ou tu n'y penses pas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de penser que ça existe. Oui.
Docteur, on va écouter quelques notes de musique, parce qu'elles sont bienvenues dans des moments comme ça. Donc, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on vous a fait venir pour réfléchir ensemble à comment on peut s'adresser à des petits, voire des tout petits, face au surgissement d'une telle violence, ce qui s'est passé hier à Annecy. Vous êtes le docteur Jacques Léna, il est 9h21, on écoute France Inter.
Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, sont mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose. Perdre nos raisons pour retrouver. Dire que c'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps. Une éternité qu'on s'aimait, on se hait. Mais on le sait, tout ne tenait qu'à enfuir. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour. Nos désaccords nous rendront sourds. Le temps fera les choses. On verra si on ose perdre la raison pour trouver la maison. Mais le temps fera les choses. Tu me l'as dit. Le temps fera les choses.
Angèle, le temps fera les choses, comme c'est bien choisi.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Mon invité, psychiatre et psychanalyste, le docteur Jacques Léna, pour répondre à ces questions qui surgissent le lendemain de cette attaque à Annecy. On a entendu tout à l'heure Émilie, maman de deux petites filles qui ont 4 et 6 ans et qui fréquentent tous les jours ce parc où s'est produit l'attaque. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, voici ce que je résume, hein, les conseils que donne Jacques Léna à notre micro. D'abord, on parle aux enfants, on n'ajoute pas de détails là où les enfants n'ont pas posé de questions. On se contente de répondre à leurs questions et on n'ajoute pas de détails qui pourraient être très anxiogènes. On leur dit que le monsieur a été puni. Ça, c'est important. Le monsieur a été arrêté par la police. Il est en prison. Il ne risque pas d'en sortir. Jacques Léna, vous dites que en fait, un enfant très jeune a un sens moral qui est déjà très clair, très fixé. Donc, quand on commet quelque chose qui est interdit, et ben derrière, il y a une punition. Et ça, c'est important que les choses soient à leur place.
Oui, les enfants connaissent ça très bien. Ils sont punis. Quel enfant n'est pas puni une fois par jour Parce qu'il a mis le doigt dans la confiture, parce qu'il a donné une baffe à sa petite sœur, parce que ceci, cela, etc. Et il demande la sanction. Je me souviens d'enfants qui avaient été violents et dont les parents, qui étaient des parents très respectueux, qui ne voulaient pas frapper leur enfant, etc., voire même avaient un peu de mal à les sanctionner, et qui me rapportaient que l'enfant leur disait « Mais j'ai fait mal à mon frère, donne-moi une gifle, donne-moi une gifle s'il te plaît. » De telle façon, probablement que l'enfant pensait pouvoir écluser sa culpabilité ou maintenir la hiérarchie morale dans laquelle il vit.
La hiérarchie morale. Donc c'est important pour un enfant que la hiérarchie morale...
Et ça, chez des enfants de 3 ans.
Ouais, hein, c'est ça.
Donc des enfants très petits ont déjà la constitution morale qui est en place. Ce qui leur manque, c'est une jurisprudence morale, c'est-à-dire une échelle de la gravité de leur faute. On voit des enfants qui vous disent j'ai poussé mon petit frère et il s'est cassé la jambe, oh c'est pas grave, je l'ai juste poussé. Et puis à l'inverse, vous voyez des enfants qui disent j'ai fait des fautes d'orthographe, chaque fois que je fais une faute d'orthographe, mes parents me donnent une gifle. Hein, et ils ont raison, c'est très grave. Alors, ça pose d'autres problèmes en même temps.
Donc, sur
la hiérarchie des fautes n'est pas établie chez l'enfant. Le sens de la culpabilité, de la faute, il est présent, l'appel à la sanction est présent, le jugement porté sur la gravité d'une faute, ça, il n'est pas très bien établi.
Il n'est pas très bien non plus. Donc c'est à nous, les adultes, de leur dire ce qui s'est passé à Annecy. L'attaque, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose de très grave et il sera puni.
Absolument.
Il sera puni. Vous aviez envie, pour conclure, d'évoquer ce film magistral qui s'appelle « La vie est belle ».
Oui, Oui, c'est parmi les différentes solutions pour parler d'événements tragiques ou potentiellement traumatiques pour les enfants, et Dieu sait si l'histoire que raconte, à laquelle fait référence le film La vie est belle de Benigni, c'est une histoire épouvantablement tragique. Et que,
c'est l'histoire d'un papa dans un camp de concentration. Alors, avec son petit garçon.
On sait bien combien des événements comme cela ont appelé du silence, et parfois du silence pendant des années, des dizaines d'années chez des parents, des gens qui ont vécu cela, et leur incapacité d'en rendre compte à leurs enfants. Une des solutions pour en parler, quand on redoute la violence que représenterait le récit de la violence, parce que le récit de la violence peut être violent lui-même, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas en rajouter dans les détails sur les événements d'hier. Le silence est une tentation, évidemment, mais savoir construire un récit qui ne soit pas trop violent pour l'enfant. Et le film « La vie est belle » réalise cela. Il en fait une histoire presque drôle. De choses épouvantables qu'ont traversé les parents des enfants auxquels l'histoire est racontée.
En fait, si je vous comprends bien, c'est qu'il faut dire c'est très grave ce qui s'est passé, et il faut dire ce qui s'est passé, mais il faut trouver des mots, et c'est dans les mots qu'on choisit qu'en fait on rassure l'enfant. On lui dit les choses, on lui dit ce qui s'est passé, mais on choisit des mots doux, si je peux...
Je ne vous étonne pas, puisque vous m'invitez comme psychanalyste.
Merci Jacques Léna, merci d'être venu nous voir.